Vous écoutez RFI, la radio partout dans le monde. Il est 21h en temps universel et à Dakar, 22h à Paris, au Casino de Paris où se produiront les Poetic Lovers le 20 avril. Les Poetic Lovers qui étaient nos invités. Charlotte de Rouen nous présente le journal. Bonsoir Charlotte.
Bonsoir Claudie, bonsoir à toutes et à tous. L'Assemblée Générale de l'ONU réaffirme son soutien à l'intégrité territoriale de l'Ukraine 3 ans jour pour jour après l'invasion russe du pays. Le sujet est aussi débattu au Conseil de sécurité de l'ONU ce soir. Et là, la donne pourrait changer puisque les États-Unis ont un droit de veto. On y revient dans un instant. L'Ukraine au menu des discussions entre Emmanuel Macron et Donald Trump lors d'une conférence de presse avec son homologue. Le président français a dit vouloir un deal rapide, mais pas un accord fragile. En Syrie, les Kurdes livreront aux autorités de Damas 150 000 barils de pétrole par jour et 1 million de mètres cubes de gaz. Dans un retournement inattendu, les Kurdes ont donc conclu un accord avec la nouvelle administration. Les experts du GIEC de nouveau réunis avec pour objectif notamment de mieux prendre en compte la science issue des pays du Sud dans la lutte contre le réchauffement climatique. 3 ans de guerre en Ukraine et un double bras de fer ce soir aux Nations Unies à New York. Bonsoir Nicolas Falaise.
Bonsoir.
L'Assemblée Générale de l'ONU et le Conseil de sécurité avaient inscrit le sujet à l'ordre du jour.
Oui, alors d'abord l'Assemblée Générale des Nations Unies, où les 193 pays membres de l'organisation disposent du droit de vote. C'est un texte initié par les États-Unis qui était sur la table, dans le contexte que l'on connaît, celui d'un revirement de la politique américaine sur l'Ukraine. Mais ce texte préparé par l'administration Trump a été amendé par des pays européens qui ont intégré dans la résolution des références à l'invasion russe et à la nécessité de préserver l'intégrité territoriale de l'Ukraine. Résultat, les États-Unis se sont abstenus sur ce texte qui ne leur correspondait plus. La Russie, elle, a voté contre, mais le texte a été adopté. Adopté également une résolution similaire qui, elle, avait été rédigée par l'Ukraine et ses alliés. Cette fois, États-Unis et Russie ont appuyé sur le même bouton, celui du vote contre. Bataille de textes et d'amendements donc à l'ONU et double revers pour Washington et pour Moscou. Avec une deuxième manche en ce moment même, cette fois au Conseil de sécurité de l'ONU, avec une différence de taille, hein, puisque les États-Unis comme la Russie sont des membres permanents, ils disposent du droit de veto qui leur permet de torpiller une résolution soumise au vote.
Nicolas Falaise, l'Ukraine qui était au cœur des discussions entre Emmanuel Macron et Donald Trump. Le président français est à Washington. Il vient de donner une conférence de presse aux côtés de son homologue américain. Emmanuel Macron dit vouloir un deal rapide, mais pas un accord qui soit fragile. La paix ne peut pas signifier la capitulation ukrainienne, a dit le chef d'État français qui demande un soutien américain en cas de déploiement de soldats européens. En attendant, un accord de paix entre Kiev et Moscou, un 16e paquet de sanctions contre la Russie a été validé ce matin. Elle cible les pétroliers dits fantômes, ces navires utilisés par la Russie pour contourner les sanctions déjà existantes. Les importations d'aluminium russe dans l'Union européenne sont aussi désormais interdites. Dimitri Peskov, le porte-parole du Kremlin, y voit l'illustration de la volonté des Européens de poursuivre les combats en Ukraine.
En l'état, nous ne voyons pas les prémices d'une reprise du dialogue avec l'Europe. Les Européens continuent de suivre la voie des sanctions. Ils sont convaincus que la guerre doit continuer. Cette conviction des Européens est en totale opposition avec la volonté de trouver des moyens de résoudre le conflit en Ukraine, ce que nous faisons actuellement avec les Américains. Ce train de sanctions était tout à fait prévisible.
Dimitri Peskov, le porte-parole du Kremlin. L'inquiétude des Occidentaux aussi sur la situation en Cisjordanie occupée. L'armée israélienne a intensifié son opération contre les groupes armés palestiniens depuis hier. Cette opération a pris une nouvelle envergure avec le déploiement de chars à Jénin. Israël a aussi annoncé avoir expulsé 40 000 personnes de leur domicile dans 3 camps de réfugiés, dont celui de Jénin, avec interdiction d'y revenir prévenir le djihad islamique accuse Israël de vouloir annexer la Cisjordanie occupée. L'Union européenne, la Croix-Rouge et le secrétaire général de l'ONU se disent inquiets. Antonio Guterres, qui s'exprimait ce lundi à la tribune du Conseil des droits de l'homme à Genève, a dénoncé les appels des colons israéliens à annexer le territoire palestinien. Cet accord entre la nouvelle administration syrienne et les Kurdes, accord qui porte sur l'approvisionnement en pétrole des régions du nord-est vers Damas, il pourrait non seulement améliorer les relations, mais aussi alléger la crise énergétique que connaît le pays. Les précisions de Mohamed Erami.
Cet accord s'est conclu à un moment inattendu et surprenant pour la population du pays. Alors que les Syriens s'attendaient à ce qu'une guerre civile éclate entre la nouvelle administration et les Kurdes en raison de leur refus de déposer les armes et d'ouvrir leur zone au gouvernement intérimaire, c'est tout le contraire qui s'est produit. Les deux parties ont conclu un accord pour l'approvisionnement en pétrole des régions du nord-est du pays vers la capitale Damas. Selon les informations obtenues auprès de sources gouvernementales, l'accord prévoit l'envoi de 150 000 barils de pétrole et d'1 million de mètres cubes de gaz par jour pour une durée initiale de 3 mois, avec possibilité d'augmentation ou de prolongation ultérieurement. En plus d'améliorer les relations entre les Kurdes et la nouvelle administration, cet accord permettra à Damas d'atténuer la crise des coupures d'électricité qui s'est aggravée au cours de la dernière décennie grâce à la remise en service des centrales électriques du pays. La majorité des champs pétroliers et gaziers se trouvent dans les zones sous le contrôle des forces démocratiques syriennes situées à l'est de l'Euphrate. À Damas, Mohamed Erami, RFI.
La Syrie qui salue la suspension par l'Union européenne des sanctions visant des secteurs économiques clés, des sanctions qui concernaient les secteurs bancaires, l'énergie ou encore les transports. La mesure avait été imposée au gouvernement de Bachar al-Assad durant la guerre civile. Aujourd'hui, les Européens veulent aider à la reconstruction et nouer des relations avec les nouveaux dirigeants du pays. Ces sanctions pourraient de nouveau être imposées si le nouveau pouvoir ne respecte pas les droits humains et les valeurs démocratiques. La 62e réunion du GIEC a débuté ce lundi. Les experts sur les changements climatiques se retrouvent avec pour objectif de mieux prendre en compte la science issue des pays du Sud, de donner plus de visibilité aux chercheurs avec la mise en place de bourses et de mieux prendre en compte les connaissances des peuples autochtones. Cet apport devrait donc figurer en meilleure place dans le prochain grand rapport du GIEC dans près de 3 ans, rapport qui servira de base aux décideurs dans leur politique climatique. Écoutez les explications du docteur Stéphane Singer. Il est scientifique et militant auprès du CAN, le réseau mondial d'ONG de lutte contre le changement climatique.
Mes collègues occidentaux ont un meilleur accès aux connaissances et aux revues scientifiques, sachant que toute la littérature scientifique est en anglais, ce qui est très souvent un obstacle dans les pays du Sud où les gens ne parlent pas forcément l'anglais. Et ils ont moins de moyens pour leurs recherches et donc pour accéder aux grandes revues. Et pourtant, les scientifiques et les communautés locales dans les pays du Sud ont un rôle fondamental à jouer, et c'est ce que le GIEC est en train de reconnaître. En donnant aux peuples autochtones, aux témoins ou aux gens affectés par le changement climatique, etc., une tribune pour raconter leurs histoires. Nous avons besoin de comprendre les préoccupations des habitants de beaucoup de régions du Sud, là où l'impact du changement climatique est souvent le plus fort, là où les communautés sont les plus vulnérables et les plus pauvres. Et même si l'impact des catastrophes climatiques se fait aussi sentir au nord, les pays du Sud représentent la majorité de la planète et c'est sur eux qu'on doit se concentrer.
Des propos recueillis par Jeanne Richard. En France, au premier jour de son procès, Joël Le Skouarnec reconnaît avoir commis des actes odieux. Cet ancien chirurgien comparaît devant la cour criminelle du Morbihan pour viol et agression sexuelle sur près de 300 patients. La plupart étaient mineurs au moment des faits. Compte rendu d'audience à suivre dans le prochain journal sur RFI. Elle était l'une des grandes voix de la soul des années 70. Roberta Flack est décédée ce lundi à l'âge de 88 ans. Elle était connue notamment pour sa version de Killing Me Softly with This Song. Elle fut l'une des voix du mouvement des droits civiques aux États-Unis également. Elle avait été diagnostiquée en 2022 de la maladie de Charcot. Oh. Roberta Flack qui est décédée aujourd'hui à l'âge de 88 ans.